Ah bah tiens.
Bibi, c'est les infos.
Un nouveau point sur l'info avec
les infos.
On verra si Vladimir Poutine a plus de couilles que Kim Jong-un. Déclaration du très controversé président américain Donald Trump sur son propre réseau social, Truth Social. Déclaration qui fait suite à la menace de Vladimir Poutine plus tôt dans la journée, affirmant lors d'une conférence de presse que la Russie est prête à une guerre totale contre tout ennemi potentiel, disant même ne pas exclure la force nucléaire. Le président américain qui affronte depuis un an et demi le Congrès et qui risque toujours la destitution suite aux fraudes massives qui ont permis sa réélection en novembre 2020, a donc réagi à la menace de Vladimir Poutine dans le contexte de la guerre en Ukraine, alors que les blindés russes s'approchent de plus en plus de la capitale, Kiev, et que l'ONU appelle les nations du monde entier au calme et à la retenue. Christiane Taubira jette l'éponge, elle annonce son retrait de la course à l'Elysée. L'ancienne ministre de la Justice n'a pas réussi à réunir les 500 parrainages nécessaires, laissant la gauche aussi divisée qu'au début de sa campagne éclair. Et enfin, la mort d'une icône de la télévision française, Jean-Pierre Pernaut, ex-présentateur star du 13h de TF1 pendant 33 ans, est décédé d'un cancer des poumons hier.
Vrai.
Donald Trump n'a pas encore adressé ses condoléances à sa famille.
Oh bah tiens, on va faire en lui. Ah, là, là.
Hop,
allez. Parce que bon, là, ça va. Hein, ça va deux minutes. Ça va deux minutes, France Info, là, mais là, vous m'avez gavé. On va aller... Alors, qu'est-ce qu'il y a de mieux?
D'autres. 30 minutes d'infos choisies
chaque vendredi.
Je
sur
zappe,
Radio Galère 88.4.
Je zappe, hein.
Le monde tel qu'on le connaissait s'écroule. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle.
Et salut.
Bonjour.
Alors, vous êtes bien sur Radio Galère dans les infos choisies. Merci pour ce générique vraiment super. On a un petit peu de retard, désolé, on a eu des petits problèmes techniques, mais rassurez-vous, c'est parti pour une demi-heure d'infos choisies.
Bonjour, bonjour. Donc, nous sommes le vendredi 4 mars, il est midi 34 minutes. Bienvenue aux infos choisies sur Radio Galère 88.4. Alors, de quoi il est question aujourd'hui ? Principalement de ras-le-bol, hein, parce qu'on en a un peu ras-le-bol d'entendre parler de soi-disant solidarité internationale, alors qu'en réalité, il n'en est rien, mais du tout. Nous avons pris le parti aujourd'hui de raconter l'envers du décor, et en même temps, c'est pas nouveau, aux infos choisies. Donc aujourd'hui, il y a des choses assez choquantes dans la manière dont on traite et la manière dont on nous présente les personnes dites réfugiées. En même temps, on n'en attendait pas moins non plus. Il y aurait donc, dans ce contexte de guerre, un élan de solidarité sans précédent de la part des pays européens. On voit fleurir des « love Ukraine » partout dans les médias, dans les discours politiques, des drapeaux ukrainiens érigés sur les frontons des mairies aux côtés des drapeaux nationaux et européens, une vague de fraternité à en faire pleurer dans les chaumières. Et pourtant, les mesures prises pour accueillir les réfugiés ukrainiens ne datent pas d'hier. En juillet 2001, l'Union européenne se dote d'une directive qui, ouvrez les guillemets, organise de manière harmonisée la protection temporaire des populations déplacées par temps de guerre. À la base, ils ont voulu légiférer dans un contexte d'époque, à savoir la guerre au Kosovo et en Irak, et par la même occasion, en profiter pour se faire redorer le blason. Cette directive ne garantit pas aux personnes d'obtenir un statut de réfugié, mais leur permettrait l'accès à l'emploi, à un logement, à l'assistance sociale et aux soins médicaux, et au système scolaire pour leurs enfants dans toute l'Union européenne, pendant une année. Juste histoire de leur rappeler qu'il n'est pas question de s'installer, c'est dire à quel point la solidarité a ses limites. Mais voilà, ça n'a jamais été appliqué. Alors qu'il y en a eu des guerres avec leur lot d'atrocités qui ont fait que les gens n'ont d'autres moyens que de fuir pour sauver leur peau. Alors faut peut-être qu'ils nous expliquent ce qui fait la différence entre un réfugié syrien et un réfugié ukrainien. Et pendant qu'ils y sont, ils pourraient aussi nous donner quelques explications sur les camps aux abords de la frontière polonaise dans lesquels sont parqués des personnes à très grande majorité noires. Vous aviez pas vu ? Non, vous aviez pas vu. Les satellites ne prennent en photo que les colonnes de chars russes de 60 km. Voilà, voilà. Elle a bon dos, la solidarité. Elle est surtout, comme le reste, à deux vitesses.
Les infos choisies, vendredi, midi
30. Les infos choisies, vendredi, midi
30. Les infos choisies, vendredi, midi 30.
SNCF, ne quittez pas, nous allons vous répondre dans quelques instants.
SNCF, donner au train des idées d'avance.
Allô, la SNCF ? C'est pour une réclamation sur les idées d'avance, justement. Oui, parce que j'ai lu que le patron de la SNCF, il avait tweeté qui rendait tous les déplacements en train gratuits pour les réfugiés ukrainiens depuis lundi sur les grandes lignes et mercredi, ça s'est étendu à l'ensemble du réseau ferroviaire avec les TER. Alors c'est super pour les réfugiés ukrainiens, mais tous les autres, ils ont droit à quoi alors ?
En raison de l'intervention des forces de l'ordre, le TGV partira avec un retard que nous ne pouvons évaluer actuellement. Nous vous préciserons dès que possible l'importance de ce retard. Merci de votre compréhension.
À se faire refouler du train à Menton-Garavant, alors qu'elles ont payé leur billet pour monter à bord. À se faire jeter du train entre Paris et Calais, parce qu'elles sont soudanais, yéménites, érythréenne, tchétchène, éthiopien, syrienne, irakien, kurde, afghane, alors que chez elle aussi il y a la guerre, souvent alimentée par des armes fabriquées ici.
Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît. Des informations vous seront communiquées dès que possible. Merci de votre compréhension.
Pourquoi tant de privilèges aux Ukrainiens ? Parce qu'elles sont blanches, majoritairement de religion chrétienne. Bon, encore heureuse, la CGT Cheminot s'est fendue d'une lettre au patron pour réclamer que la gratuité soit étendue à l'ensemble des réfugiés, en écrivant notamment « Il ne serait pas entendable que la couleur de peau, l'origine ou la religion réelle ou supposée amène l'entreprise à sélectionner les bons ou les mauvais réfugiés. Il y a aussi question des entraves faites aux réfugiés depuis des années, particulièrement en région PACA. Alors là voilà ma réclamation. Que tous les amis venus de loin pour fuir la guerre, la misère, le changement climatique ou juste pour venir trouver une vie meilleure aient elles aussi droit à se déplacer librement et gratuitement ici.
Ne quittez pas, nous allons vous répondre dans quelques instants.
À la suite d'un grand nombre d'appels, le délai de traitement de votre demande risque d'être rallongé. Nous faisons le maximum pour réduire votre attente et nous nous excusons de la gêne occasionnée.
La SNCF vous souhaite un joyeux Noël.
Et alors, pour continuer à parler de frontières, et ben, aux infos choisies, on avait envie de mettre l'accent sur des luttes de personnes exilées, parce que comme vous l'avez compris, ces derniers jours, on n'en peut plus, on en a vraiment ras-le-bol d'entendre partout l'accueil extraordinaire de l'Europe, des réfugiés. La SNCF, comme on vient de l'entendre, qui propose des trains gratuits pour les exilés ukrainiennes. Les ministres européens, comme tu l'as dit tout à l'heure, les ministres européens de l'Intérieur, qui activent cette directive de 2001 pour permettre aux réfugiés ukrainiens et ukrainiennes de séjourner temporairement dans l'Union européenne. Bon, pas toutes les personnes ukrainiennes, hein, puisque des personnes noires sont bloquées à la frontière et sûrement il y a d'autres personnes qui sont bloquées, enfin en Ukraine, parce qu'ailleurs c'est sûr qu'il y a des tas et des tas et des tas et des tas de personnes empêchées de se déplacer, empêchées par l'Europe à coups de police, de barbelés, d'enfermement, de violences physiques, de caméras de vidéosurveillance, etc. Et face à ça, eh ben, les gens continuent de s'organiser. Alors à Melilla, mercredi dernier, 2500 personnes se sont organisées pour franchir les clôtures. 2500. Melilla, c'est ce petit bout de territoire espagnol et donc de territoire européen au nord du Maroc. C'est une des deux frontières terrestres de l'Union européenne sur le continent africain, avec Ceuta. Et les Européens mettent le paquet financier pour garder cette frontière fermée. Triple clôture grillagée de plusieurs mètres de haut sur une longueur de 12 km, avec caméras de vidéosurveillance et miradors. Accord financier et économique avec le Maroc pour que la police marocaine fasse le boulot de l'Union européenne et garde la frontière côté marocain. Ce qui n'empêche pas que des personnes tentent de franchir ces grillages, souvent à plusieurs, avec des crochets pour escalader. Et mercredi dernier, ben ils étaient 2500. Vous imaginez l'organisation à 2500 ? C'est pas rien. Hein ? Ils et elles ont descendu les collines ensemble et utilisé le nombre pour faire en sorte que le maximum de personnes passent. 491 personnes ont réussi à entrer en Europe, malgré des réactions hyper violentes des polices espagnoles et marocaines, malgré des tas de personnes blessées. L'année dernière, il y a eu 1092 personnes qui ont réussi à entrer à Melilla. Alors voilà. On avait aussi envie de parler de ça, pour saluer le courage et la force des personnes qui s'organisent face à la guerre aux frontières menée par l'Europe. Parce que l'Europe est en guerre, depuis longtemps. La guerre ne vient pas d'apparaître en Ukraine. L'Europe n'est pas une entité sympathique qui accueille les personnes réfugiées. Beaucoup de personnes se déplacent à cause des guerres menées par l'Europe et de leurs conséquences. Alors on avait envie de partager une immense solidarité avec les personnes qui mettent en jeu leur corps et leur vie contre les armées de l'Europe et qui s'organisent pour que d'autres puissent continuer à se déplacer. Et un autre endroit dont on avait envie de vous parler, où des personnes exilées s'organisent contre la guerre aux frontières menée par l'Europe, c'est en Libye. On a déjà évoqué ça dans les infos choisies. Parce que depuis janvier, y a des milliers de personnes qui occupent une place devant le bureau de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés à Tripoli. Ces personnes font des manifs, se battent pour pouvoir être évacuées de la Libye. Et elles ont créé un site internet www.refugeesinlibya.org où elles publient leurs communiqués, des articles d'analyse, des témoignages, des actions de soutien dans différentes villes, des photos, des vidéos. Et on avait envie de parler de la campagne qui se lance en Europe pour diffuser massivement sur plein de médias différents et en même temps les revendications des personnes qui luttent à Tripoli. La campagne, elle s'appelle Call to Amplify the Voices of Refugees in Libya. Et on va suivre ça avec attention dans les infos choisies. Vous êtes toujours dans les infos choisies de vendredi midi et demi et on vient d'écouter le groupe Radical Kitten avec la chanson « I don't wanna ». Alors on continue ces infos avec une nouvelle rubrique santé, décidément, parce que peut-être que vous en avez entendu parler, mais le gouvernement français est en train de mettre en place Mon Espace Santé. Mon espace santé, c'est une nouvelle version du dossier médical partagé. Alors ça, c'est un truc qui existe déjà sur Amélie pour les personnes qui ont choisi de le créer et qui permet de rassembler tous les ordonnances, comptes rendus, résultats médicaux, etc. d'une personne. Et donc là, il y a ce nouveau truc qui est mon espace santé. Alors le but affiché, c'est le même, permettre au personnel de santé d'accéder à notre historique médical en ligne. Voilà, donc toutes ces informations seront accessibles à tous les professionnels de santé, plus besoin de se baser sur les informations communiquées par les patients. Pratique. Et en plus, mon espace santé est ouvert par défaut pour tout le monde, sauf si on exprime notre refus. Alors ça pose quelques problèmes. D'abord, des problèmes de sécurité de données et de business des données, parce qu'on le sait, les données personnelles, ça coûte très cher sur le marché économique. Et puis, bien sûr, il va y avoir une grosse entreprise de maintenance qui a raflé un joli marché pour faire la maintenance de cette plateforme. Un autre problème, c'est que n'importe quel soignant aura accès à toutes les informations médicales présentes et passées, y compris celles qui ne sont pas du tout pertinentes pour le cadre de soins. Franchement, quel besoin a mon dentiste de savoir que je prends des anxios, que je suis trans, que je prends n'importe quel médoc? Quel besoin a l'ophtalmo de savoir que je prends des traitements hormonaux? Bref, on le sait, l'institution médicale, elle est déjà assez discriminante et violente avec des personnes trans, des personnes psychiatrisées, avec tout un tas de personnes dont le parcours médical n'est pas jugé normal. Et là, tous les soignants et les soignantes seront automatiquement informés. Aussi, il y a le fait que les parents des mineurs peuvent avoir accès à la totalité des informations médicales de leurs enfants via cet espace numérique. Il y a quand même un petit décret pour conserver la confidentialité des actes de santé sur les dépistages et les IVG pour les mineurs, mais pas pour les autres informations. Bonne nouvelle, c'est que cet espace santé, on peut encore s'y opposer. Alors, on avait envie de vous raconter comment. Si vous avez reçu un mail ou un courrier intitulé « Mon espace santé », c'est un courrier de l'assurance maladie, qui vous informe de la création de cet espace. Donc si on a ce mail ou ce courrier, on a 6 semaines pour renvoyer à l'assurance maladie une demande en ligne de refus d'affiliation. Ça, c'est un document qui est trouvable sur Internet, et donc il suffit de le renvoyer. Si on n'a pas reçu de mail ou de courrier, on peut aller sur le site officiel monespacesanté.fr et on a besoin de sa carte vitale pour générer un code provisoire. Là, on reçoit un code qui est valable pendant 6 semaines par mail ou par SMS. Ensuite, on entre ce code provisoire sur le site et on clique sur « Refuser l'activation de mon espace santé ». Et après, on a un petit document d'attestation qu'on a bien refusé. On peut aussi faire cette démarche par téléphone au 34 22. Alors, c'est bizarre, on doit créer l'espace santé pour le clôturer. Voilà, ce que ça permet, c'est que il n'y ait pas de données stockées sur cet espace. Et si jamais on a raté le délai des 6 semaines, on est censé quand même pouvoir demander la clôture de l'espace. Et les données qui sont déjà sur notre espace, elles seront conservées pendant 10 ans, sauf si on fait la demande qu'elles soient supprimées, auquel cas elles sont censées être supprimées dans un délai maximal de 3 mois.
Mais c'est complètement kafkaïen.
C'est totalement kafkaïen, voilà. Mais on avait quand même envie de partager ce petit truc et astuce pour s'opposer à la création de l'espace santé pour celles et ceux qui le souhaitent.
Mais le plus simple reste quand même d'appeler, peut-être.
Voilà, ça dépend pour qui, en tout cas. Mmh. En tout cas, on peut retrouver ces informations. Il y a quand même pas mal de gens qui ont fait du travail sur Internet sur comment s'opposer à l'espace santé. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si ça vous intéresse.
Les infos choisies, vendredi,
les
midi 30.
Les infos choisies, vendredi,
les midi 30. Les infos choisies, vendredi, midi 30.
Et alors, on va continuer ces infos choisies avec l'agenda. Alors là, c'est un agenda brûlant puisque ça se passe cet après-midi à 14h au snack rue d'Espérandieu. Il y a un atelier pour apprendre à contribuer à une carte de la vidéosurveillance. Voilà, c'est grâce à OpenStreetMap et c'est possible de renseigner les emplacements des caméras, des trop nombreuses caméras de vidéosurveillance qui nous entourent. Donc, c'est tout à l'heure, à 14h, au snack. Toujours au snack, ça se passe demain, samedi 5 mars, de 13h à 18h. Il y a une formation boycott désinvestissement sanctions, formation BDS. Et c'est une formation pour aborder l'histoire de la Palestine, comprendre la situation des Palestiniens-Palestiniennes, s'engager dans la campagne BDS, connaître les campagnes en cours et les stratégies d'action, comprendre les complicités des entreprises et des institutions, et mener des actions de boycott et exiger des sanctions. Dimanche 6 mars, à 18h, il y a un événement en soutien aux personnes réfugiées en Ukraine et aux autres réfugiés. Et il y a le lancement d'une cagnotte avec de quoi boire et de quoi manger.
Lundi, donc 7 mars, à 20h, devant le 49 cours Julien. Donc il y a la projection de courts-métrages féministes suivi de discussions, ça se passe au Vito Otro, mais c'est à partir de 18h30. Et à 20h, il y a la marche féministe nocturne en mixité choisie, au départ du cours Julien, toujours devant le Vidéodrome. Alors, le mardi 8 mars, c'est la journée internationale de lutte pour le droit des femmes et des minorités de genre. Il y a un appel dont on va vous lire un bout.
Le 8 mars 2022, en plein cœur des élections présidentielles, doit rendre visible la puissance de nos luttes, notre refus des mesures sécuritaires, racistes, islamophobes de plus en plus nombreuses, de plus en plus banalisées par les médias dominants. Le 8 mars 2022, faisons grève sur les lieux de travail, dans les foyers, dans les écoles et les universités. Depuis plusieurs années, les extrêmes droites et les néolibéraux s'emparent des discours féministes pour justifier des politiques profondément racistes et islamophobes. On a vu récemment le gouvernement français interdire le port du voile pour les femmes lors des compétitions sportives, sous couvert de libération et de lutte contre le soi-disant séparatisme religieux. Parce que le patriarcat et le capitalisme ne nous libèrent jamais, nous devons réitérer la nature antiraciste et antifasciste de nos luttes. Le Covid-19, en confinant la vie de toutes au foyer, a été largement défavorable aux femmes, qui ont été plongées dans plus de précarité et moins d'autonomie. En effet, un grand nombre d'entre elles se sont vues quitter leur emploi pour se consacrer à la garde de leurs enfants. Aussi, la crise du Covid-19 a exposé davantage les femmes aux violences conjugales. Nous voyons également, à travers les mesures sanitaires répressives, une augmentation de la violence d'État, avec une augmentation des violences policières dans les quartiers touchés le plus par la pauvreté et l'isolement. Cette crise a aussi abîmé nos liens de lutte féministe, la puissance de nos collectifs, les relations sociales qui sont nécessaires à l'émergence d'une force féministe massive. Mais la crise a également montré l'hypocrisie du gouvernement, qui a valorisé soudainement l'importance vitale des soignantes, alors que celles-ci, comme tous les métiers majoritairement féminins, sont invisibilisées depuis toujours. Le gouvernement français a loué leur courage, alors que celles-ci demandaient surtout des meilleures conditions de travail depuis de nombreuses années. Malgré cela, la crise nous a donc toutefois montré que ces métiers du soin sont plus qu'indispensables dans la société. En plus de cette crise, les situations de précarité économique augmentent toujours plus, à travers la destruction des droits et des acquis sociaux menés par des gouvernements libéraux. Les trans, lesbiennes et bi, travailleuses du sexe, migrantes, sans papiers, handicapées, victimes du racisme, de l'antisémitisme, de la négrophobie, de l'islamophobie, chômeuses et précaires, sont particulièrement exploitées au travail, en occupant des emplois difficiles et moins bien payés. Cette précarité économique aggrave les violences déjà subies, car nous manquons d'autonomie nécessaire pour nous protéger de ces violences, qu'elles aient lieu dans le foyer ou au travail. Pour toutes ces raisons, nous devons construire un mouvement féministe fort, autonome et organisé, pour lutter contre une société patriarcale, capitaliste, raciste, négrophobe, antisémite, islamophobe, LGBTQIAP+phobe, putophobe, validiste, psychophobe, et chercher à construire une société féministe égalitaire et solidaire de toutes. À Marseille, la présence du collectif Némésis, se définissant comme féministe identitaire, incarne la récupération de discours féministes dans des discours d'extrême droite. Doit nous faire prendre conscience de l'importance de lier nos luttes féministes aux luttes antifascistes et antiracistes. Pour cela, il nous semble nécessaire de recréer des liens durables entre nos organisations collectives, associations de quartier aux luttes diverses. Il nous semble que cet objectif se concrétise également à travers l'organisation et la construction d'expériences militantes communes. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir la suite du programme du
mardi 8 mars ? Ah bah oui, parce que cette journée est chargée en rendez-vous. D'abord, il y a donc à 13h une manifestation du mouvement des femmes kurdes de Marseille qui partira de réformer en haut de la Canebière. Je vous lis quelques mots quand même sur leur manifestation. De Rosa jusqu'à Sarah, nous marcherons au rythme et aux couleurs des femmes du monde, à la lumière du confédéralisme démocratique. Donc ça dit bien ce que c'est pour les femmes kurdes aussi cette journée. Donc et à 14h, cette fois-ci sous l'ombrière du Vieux-Port, il y a un rassemblement organisé par la Marche mondiale des femmes et d'autres organisations, et syndicats et partis politiques. Donc ça, c'est le rassemblement qui a lieu à 14h. Et à 17h30, il y a le rendez-vous pour partir en manif du Vieux-Port, donc pour la fameuse manifestation de la journée des luttes, quoi. Le vendredi 11 mars, donc c'est à la fin de la semaine prochaine, au planning familial à 18h, donc le planning familial est au 106 Boulevard National, il y a la présentation d'un livre de Odile Dutray qui s'appelle « Vivantes, des femmes migrantes racontent ». Et c'est un livre de témoignages de femmes qui racontent les raisons de leur départ et qui racontent aussi leur parcours migratoire. Et donc c'est à 18h au planning familial. Il y a une autre, mais ce sera la semaine prochaine, peut-être que tu veux en dire quelques mots.
Ouais, vous pouvez juste réserver votre soirée du jeudi 17 mars, parce que dans le cadre de la programmation AIDS Crisis is Still Beginning, avec l'exposition du MUCEM VIH-SIDA, l'épidémie n'est pas finie, eh ben, y a des lectures prévues et des projections. On vous en dira plus la semaine prochaine, mais on avait quand même envie de vous l'annoncer.
Donc voilà, les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui.
Et on se quitte en musique avec un morceau de Mélissa Lavo, Papessa. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui ont participé à ces infos choisies. Merci à la technique. Et puis on pense bien à nos camarades qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Et
on les embrasse.
Traversent des moments pas que simples. On est avec vous.
À bientôt et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Salut. Drag my eyes out of bed. I live this life like I'll be dead tonight. That's all the soothsayers say. That's all the soothsayers say.